franceinter.fr.
Bonjour, c'est un petit mot hébreu qui signifie la montée ou bien l'ascension. Et on l'entend de plus en plus souvent en France, notamment depuis les attentats contre Charlie Hebdo et le supermarché Kacher de la Porte de Vincennes. Ce mot, c'est « Aliya ». L'Aliya caractérise la décision d'un juif d'aller s'installer en Israël. Depuis la loi du retour, votée par le tout jeune État hébreu en 1950, toute personne qui peut prouver sa judéité ou bien la présence de juifs dans son ascendance peut devenir citoyen de l'État d'Israël. C'est un droit et il est assorti de nombreuses aides matérielles à l'installation. Or aujourd'hui, le nombre des candidats à l'Aliya ne cesse de croître en France. Ils étaient moins de 2000 par an entre 2008 et 2011. Ils pourraient bien dépasser les 10 000 cette année. L'Aliya a été longtemps motivée par un élan spirituel ou par une attirance vers un pays jeune et réputé dynamique. Mais aujourd'hui, la peur en est devenue un moteur important. Ces départs ne constituent pas seulement des mouvements démographiques, ils sont aussi un miroir tourné vers notre société. Une société où des juifs, aujourd'hui, ont peur simplement parce qu'ils sont juifs. Aussi révulsant que soit ce constat, pour ceux qui n'ont pas oublié les heures les plus noires de notre histoire, c'est une réalité. Entre Jérusalem et Tel Aviv, Sébastien Logeni, notre correspondant en Israël, et Nicolas Mathias ont rencontré ces Français qui choisissent Israël.
Interception, le magazine de la rédaction.
Nous sommes dans le hall de l'aéroport Ben Gurion, c'est l'aéroport international israélien, et c'est ici la porte d'entrée de l'État hébreu, par ici qu'arrivent des milliers de nouveaux immigrants du monde entier. Nous attendons là un vol de la compagnie nationale israélienne avec en ce moment à son bord plusieurs dizaines de nouveaux immigrants français. Ils sont actuellement dans un salon de l'agence juive. Ils vont commencer leur première démarche administrative pour l'Aliya et le premier pas, eh bien, c'est de récupérer une carte d'identité israélienne, le premier pas vers une nouvelle vie d'immigrant.
J'avais une boule au ventre, je me suis posé la boule à l'époque.
Qu'est-ce que vous ressentez là? Ça y est, vous avez fait le pas de franchir, de partir de France pour arriver ici.
C'est un grand privilège d'avoir attendu, c'est un grand privilège d'être parmi la génération qui a ce privilège d'arriver après 2000 ans en Israël. Quand on reçoit une enveloppe avec « Bienvenue à la maison », ça fait très chaud au cœur.
Une enveloppe avec bienvenue à la maison. Là, vous avez une enveloppe ici dans votre petit sac, c'est
absolument,
ça
qui dit bienvenue à la maison.
Qu'est-ce que vous avez de plus? C'était une carte d'identité. Qu'est-ce qu'on vous a donné là?
Une carte d'identité et des papiers pour s'intégrer aux us et coutumes du pays.
Vous avez passé 3 heures dans un salon, c'est ça?
C'est ça, voilà. On nous a rien raconté, on nous a donné ce qu'il fallait pour pouvoir faire le mieux possible et s'intégrer de façon efficace et de façon
douce.
Une petite aide aussi pour le transport, c'est ça?
Oui, ouais. Ça c'est
un taxi,
important.
Voilà. C'est... Tout est fait pour qu'on soit bien reçu à la maison.
Ça fait combien de temps que vous attendiez ça?
20 siècles.
Ans.
20 siècles et 70 générations.
Alors,
de souffrance et ouais. De bonheur aussi. Voilà.
Et vous concernant personnellement, ça fait combien de temps que vous pensiez à faire l'Aliya?
Écoutez, ça s'est décidé ces dernières années.
Vous savez où vous allez vivre maintenant?
Pas encore. On va trouver.
Cette nuit?
Le pays est beau. Cette nuit?
Chez des amis.
Chez des amis. Et demain, chez nous. Ce sera chez nous.
והמתנה, מתנה, מותנית באהבה, נשמה חשוכה. תן לי אותך ולא רק אם, תן אהבה בלי תנאים, בלי תנאים. So far, you see the sky, you cry, you don't know why.
Nous sommes dans un quartier résidentiel de la ville d'Ashdod, juste à côté de la mer Méditerranée, et nous ne sommes qu'à 30 km à vol d'oiseau de la bande de Gaza. Et pendant tout cet été, eh bien, les habitants d'Ashdod ont vécu au rythme des alertes à la roquette. C'est là que David a choisi de s'installer avec sa famille, avec ses 5 enfants et sa femme. Ils sont tous arrivés en Israël en pleine guerre. Une arrivée très brutale, une nouvelle vie à laquelle ils ont encore beaucoup de mal à s'adapter.
Très bonne. Ça va, Noah? Tu dis bonjour quand même?
Oui, je...
Les enfants, vous dites bonjour, vous allez dire tous bonjour là.
Hein?
On a de la visite de France, c'est sympa, non? Ils viennent spécialement de France pour vous voir.
Un garçon, 4 filles.
Voilà, l'aîné c'est un garçon et les autres ce sont des filles. Voilà.
Déraciné à... À 2 ans et à 9 ans, quoi. C'est dingue, hein.
C'est ça, ils ont entre 2 et 9 ans.
Exactement.
Ouais, le grand à 9 ans et la petite à 2 ans.
Vous vous souvenez du moment où vous avez pris la décision, vous êtes dit là, c'est plus possible, on part
Oui.
Dans...
6 mois avant notre départ. 6 mois avant notre départ, on a décidé 6 mois avant et 6 mois après, on est en Israël.
Donc vous avez décidé en février... De l'an dernier.
Voilà, on a tout fait les papiers à partir de ce moment-là. Au mois d'août, le 17 août, on est arrivé en Israël.
Et est-ce qu'il y a eu un élément, vraiment le dernier élément déclencheur qui vous est dit, c'est là, David?
Oui, il y a eu quand même un électrochoc. C'est que bon, mes enfants jouaient dans le jardin, c'est la veille de Shabbat. Ils commençaient à chanter les chansons juives qu'ils ont apprises à l'école. Qui célébraient le Shabbat, en fait, des chansons traditionnelles. Et je leur ai dit, les enfants, ne chantez pas ça dehors, rentrez à la maison. J'avais peur de me faire repérer par un... Voilà, parce que c'est un coin où il y a des mosquées, il y a tout ça. Je me suis dit, bon, on nous repère, une famille juive isolée, on vient, puis voilà. On abat des enfants. En fait, on est exposé à ça. On est exposé à ça, malheureusement.
Et c'est ce soir-là, ce soir de Shabbat, où vous vous êtes dit, c'est plus
possible.
Ouais,
j'ai dit, c'est plus possible de vivre comme ça. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi offrir ça aux enfants? Il y a des bandes de voyous qui sévissent en France, qui sont incontrôlables. Et jusqu'à aujourd'hui, incontrôlées. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas vivre avec cette tension, ce n'est pas possible.
Ouais, vous avez pris peur en France, c'est ça?
Ben, on a pris peur. Disons que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde se dit, bon, à force de discuter avec pas mal de gens déjà, on pense que l'électrochoc a été Charlie Hebdo et Vincennes, tout ça, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Effectivement, ça a été le catalyseur, mais en aucun cas, ça a été la raison principale. Ça a commencé depuis les années 2000, en fait, cette angoisse pour la communauté juive. Des micro-agressions qui se répètent sans arrêt. Voilà, ça s'est répété des années en années. Alors, on entend une fois une agression dans le métro, une fois un sale juif, une fois un sale machin. Et à force de tout ça, voilà, après, on a abouti à l'affaire Halimi, qui était pathétique et consternante.
Le gang des barbares.
Ouais,
qui avait...
voilà, c'était horrible. Voilà, donc on a été confrontés à ça, après des centaines et des centaines de micro-agressions. Et puis finalement... Après l'affaire Halimi, ça a continué, je veux dire, c'est un racisme qui est là, et alors bien sûr, petit à petit, la peur, elle s'ancre. Après, au début, on se dit, on est parano, finalement, parce que c'est vrai que la France nous protège, on est protégés, on a des... Voilà, ce que le discours de Manuel Valls nous a fait tous pleurer, moi j'en ai chialé de son discours à l'Assemblée nationale. Donc je sais que c'est sincère, et je sais que Hollande a une profonde amitié pour la communauté juive, mais malheureusement, ils sont débordés, c'est plus possible. Ils sont débordés pour eux-mêmes. On a tué des militaires, on les abat dans le dos. Après, c'est les flics avec Charlie Hebdo. Et puis, toute une rédaction qu'on décime, ça s'arrête pas, quoi. Pour Charlie Hebdo et Vincennes, on sent qu'on a atteint un paroxysme dans la violence, quoi. Et dans le ressenti, bon, de la communauté musulmane. C'est pas un racisme, c'est pas un antisémitisme français. Pas du tout, quoi. Voilà, je suis d'autant plus à l'aise de le dire ici parce que je suis pas astreint au politiquement correct. Donc voilà, je peux parler librement et voilà, je vais le dire. C'est un antisémitisme islamique. Point barre. Comme la France souffre de ça aussi. Je veux dire, on a envie de l'enterrer, de l'étouffer sans arrêt. Mais c'est vrai, le sale blanc, on l'entend souvent. On est rentré dans une cécité terrible, en fait. Ma fuite vers Israël, ça a été... Enfin, une fuite, j'ai pas envie d'appeler ça une fuite. Mais en tout cas, le départ vers Israël, ça a été plus motivé par la cécité que je constate au fur et à mesure des discours, plus que par les événements eux-mêmes. Ce qui me fait peur, moi, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur du problème en France.
Vous-même, vous avez été victime, avant de partir, un certain nombre de faits, d'actes personnels?
Franchement, pas vraiment, mais ça puait, quoi. Ça puait, on sentait que c'était dans l'air. Moi, mon fils, il avait une kippa sur la tête, de lui-même, à force, c'est lui-même qui l'enlevait. Dès qu'ils voyaient un musulman passer en tenue un petit peu, je sais pas si on peut appeler extrémiste ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas en barbe et en sari, lui-même par réflexe il enlevait sa kippa. Je me suis dit bon c'est mort quoi, c'est que même eux sont complètement atteints par cette image quoi.
Votre fils qui a quel âge ?
9 ans.
Ouais, donc vous êtes quand même beaucoup parti, vous dites pas par fuite, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là finalement quand même dans
bien
votre
sûr,
geste.
Hein. Bien sûr, bien sûr. C'était moi, mes enfants, ils faisaient pas 100 mètres en dehors du jardin. Voilà, parce que c'était dangereux. Il y avait des... À force, on ne sait plus qui est qui. On nous dit qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Mais alors, est-ce qu'on a un détecteur, nous, pour savoir un mec qui a une barbe et un sari entre un autre mec qui a une barbe et un sari, ou qui est en costard-cravate, ou qui est habillé comme Koulibaly, qui était en fait un beau gosse notoire, avec habillé en jean et sa petite cagoule de rappeur, voilà, qui allait abattre des juifs. On fait quoi ? On a un détecteur pour détecter tout ça, dans la rue. Et puis bon, j'en ai marre aussi de ce discours à la télé, dès qu'il y a des trucs, c'est tous les imams qui sont à la télé pour dire c'est pas nous. Le sujet c'est pas nous. Le sujet c'est qu'est-ce qu'on fait ? Depuis l'affaire Halimi, je me dis non, on va pas être parano. Et puis finalement, c'est de pire en pire.
On le devient, surtout quand on a des...
Non mais le pire c'est que c'est...
On le devient quand on a des petits-enfants, on a peur.
Parano.
Moi j'avais peur de sortir avec mes enfants dans les parcs et tout, s'il avait la kippa, fallait pas montrer notre judaïté. Voilà, fallait se cacher. Moi, pour moi, quand on, à partir du moment où on doit se cacher, ça y est, c'est fini. Quel intérêt de rester dans un pays où je dois me cacher, où je dois pas montrer que je suis juive.
En raison d'un grand nombre d'appels, le temps d'attente est particulièrement long. Le Global Center propose aux gens du monde entier l'information la plus complète sur différents sujets liés à Israël.
Agent Juif, bonjour, je suis Rana l'appareil.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
Ce malaise des Juifs de France, l'agence juive l'a très vite ressenti. L'agence juive, c'est l'organisme chargé de faciliter l'immigration des Juifs du monde entier vers Israël. Et dans les jours qui ont suivi les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, ce sont des centaines d'appels téléphoniques qui sont arrivés ici, à Jérusalem, au call center de l'agence. Des appels de panique, mais aussi pour s'organiser, préparer son départ. Dans ce call center, l'unité la plus importante, celle qui reçoit le plus d'appels dans le monde, c'est l'unité francophone. Jessica Ben-Simon en est la responsable.
Nous proposons aux gens du monde entier l'information la plus complète sur la Aliyah et sur Israël. En fait, on se rend compte que dès qu'il y a un attentat en France, ou encore une fois, on s'occupe aussi de la Suisse et de la Belgique, mais c'est vrai que dès qu'il se passe malheureusement un attentat, les gens nous appellent pour avoir des renseignements. Voilà. Au niveau des appels entrants, au mois de janvier, on a eu 11 662 appels entrants. Donc c'était en janvier 2015. Et pour la comparaison, en janvier 2014, on a eu 5 680 appels entrants.
Donc deux fois plus.
Mais c'est toujours comme ça. Après un attentat, les gens ont peur et ils cherchent un peu un moyen d'être prêts au cas où quelque chose se passe. Il y a des gens qui nous appelaient pour dire voilà, bonjour, comment je fais pour commencer ma procédure d'Alia. Et c'est vrai que j'ai parlé aussi à pas mal de personnes qui m'ont dit on a peur, on veut que le dossier soit prêt au cas où s'il se passe quelque chose. J'ai vraiment ressenti un sentiment d'insécurité, oui.
Quels sont les documents dont on a besoin quand on est juif habitant en France pour prétendre à devenir israélien ? Qu'est-ce que vous leur demandez comme documents ?
Alors, un passeport. Passeport français, acte de naissance et certificat de laïcité.
C'est-à-dire,
dans la loi du retour, on garantit à tout juif le droit d'immigrer en Israël. On donne un service à tous les juifs ou les gens qui se sont convertis, à tous les enfants de juifs, petits-enfants de juifs et les conjoints. À partir du moment, comme je vous l'ai dit, où la personne a rempli les questionnaires. Et que le dossier est complet, qu'on lui fixe un rendez-vous avec le délégué, il ne reste plus qu'à choisir la date.
D'arrivée.
La date d'arrivée, bien sûr. L'agence juive offre le billet d'avion à l'essaim pour Israël et offre aussi le supplément de bagages à l'aéroport, maximum 60 kilos. chaque nouvel immigrant qui arrive à l'aéroport a la possibilité d'avoir un taxi gratuit à sa première adresse. Il reçoit aussi, ça aussi c'est pas mal, il reçoit une carte SIM de 200 minutes pour téléphoner directement à l'aéroport, pour appeler la famille et dire « je suis bien arrivé, je suis en Israël ».
D'accord.
Une personne qui arrive à l'aéroport, dans la plupart des cas, peut recevoir sa carte d'identité directement à l'aéroport, au ministère de l'Intégration, reçoit aussi le premier paiement du panier d'intégration.
C'est-à-dire ?
En fait, un des droits du nouvel immigrant, c'est le Salklita, ça s'appelle, c'est le panier d'intégration, c'est une aide financière en 6 paiements mensuels. C'est sur la première année.
De combien ?
Pour une personne célibataire, en tout, c'est 18 412 shekels.
D'accord ? Sur les 6 mois ?
Sur les 6 mois, donc 18 000 en tout.
Entre 3 et 4 000 euros.
Voilà.
Et tout ce qui est démarche administrative, un peu plus lourd, donc assurance maladie, c'est pareil, on commence dès l'arrivée à l'aéroport à ouvrir ce genre de droit ?
Alors, dans la plupart des cas, le Olé Khadash, donc le nouvel immigrant, a la possibilité de s'inscrire à la caisse maladie directement à l'aéroport.
Donc il y a énormément en fait, de démarches administratives qui sont déjà engagées. Le premier pas fait en Israël est déjà très administrativement déjà assez lourd.
Le ministère de l'Intégration et l'agent juive essayent de mettre tout en œuvre pour aider le nouvel immigrant et faire le maximum pour que son intégration soit réussie. Oui.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Sarah, enchantée.
Bonjour Sébastien.
Enchantée, bonjour.
Salut.
Ça va ?
Ça va ?
Ouais.
On est ici au centre d'absorption de Tel Aviv. Alors ça ressemble un peu à une résidence universitaire un peu défraîchie, tout en béton. 120 personnes vivent ici, essentiellement des jeunes d'une vingtaine d'années, 22 nationalités, surtout des jeunes qui viennent de l'ex-bloc de l'Union soviétique et surtout des Français, beaucoup de Français, 26 exactement. Ils seront bientôt 40 dans le prochain programme d'absorption. Alors il y a ici un ulpan. Qu'est-ce que c'est qu'un ulpan ? Eh bien c'est une école où on apprend l'hébreu pendant 6 mois. Et il y a un centre d'hébergement, des dortoirs pour pouvoir accueillir ces jeunes qui viennent du monde entier. On reste ici pendant 6 mois pour commencer à s'intégrer dans la société israélienne. Et nous allons rencontrer une jeune fille, une jeune Française qui vient de faire son alia en octobre dernier. Elle s'appelle Sarah Tmim, elle a 22 ans.
Je viens de Paris, banlieue parisienne Charenton, et j'ai fait l'alia il y a 4 mois. Donc j'ai terminé mes 5 années d'études à l'université en lettres modernes. J'ai été pendant une année professeur de littérature et de français au lycée, sur Créteil. Et après avoir enseigné un an, j'ai compris que ma place n'était plus en France. Voilà, j'étais dans un lycée public. Il y a eu au moment des révoltes avec Dieudonné, la Quenelle et tout ça, des petits incidents. Un jour, je suis rentrée en fait dans mon lycée, j'ai vu mon nom et mon prénom gravés sur le mur avec des croix gammées. Ce jour-là, j'ai appelé ma mère et j'ai dit « Maman, je m'en vais, je prépare l'alia et je m'en vais ». Voilà. Ma place n'est plus en France. J'ai toujours rêvé de vivre en Israël. Je vais avoir 26 ans. Donc j'ai pas envie de commencer à construire ma vie en France pour devoir la déconstruire et reconstruire ailleurs. Je préfère construire directement dans mon pays. Dans mon pays de cœur. J'aime la France. J'ai étudié la littérature pendant 5 ans. Je suis passionnée de toute l'histoire française. J'ai vécu toute ma vie en France. Mais mon pays, au fond de mon âme, plus profond de mon âme, est Israël. Et comme on dit à Beit Sheli, c'est notre maison. Je vais très souvent en Israël, tous les étés. Ma mère et mon beau-père ont un appartement sur Eilat. Donc on y va vraiment très souvent. Mais là, cette impression d'arriver sur cette terre qui a tant été convoitée durant des générations entières, parce que on pense à ça. On repense à Moïse avec le peuple hébreu qui sort d'Égypte, qui ont marché durant 40 ans dans le désert pour pouvoir mettre un pied sur la terre d'Israël. Et le moment où on pose un pied en dehors de l'aéroport en tant qu'israélienne, mais c'est un moment unique au monde.
Et vous comptez construire votre famille ici, rencontrer votre mari, faire des enfants ici. Votre vie désormais, votre avenir est ici.
Voilà, je ne pense pas une seule seconde, même dans les moments de blues, si je puis dire, je ne pense pas une seule seconde à retourner en France. Non, je ne me retourne plus. Ma vie est devant moi. Moi, je veux être israélienne. Je veux pas être une Française qui vit en Israël.
Donc vous allez devenir israélienne.
Voilà.
Racontez-nous un petit peu ce parcours-là, dans lequel vous êtes en train de rentrer. Là.
Donc en arrivant en Israël, je m'étais déjà inscrite dans un programme, donc ce programme-ci, qui s'appelle Beit Brodetsky. Nous vivons dans un campus avec des colocataires. Nous avons des chambres de 2 personnes, des chambres de 3 personnes, des chambres de 4 personnes. Tous les jours, 5 fois par semaine pendant 5 heures, nous étudions l'Ulpan. C'est très intense, mais au bout de 6 mois, nous sommes capables, moi qui ne savais ni lire ni écrire il y a 4 mois en hébreu, nous sommes capables de, voilà, de parler, de tenir des conversations, de pouvoir trouver du travail.
C'est ce que vous faites ce matin, là ?
C'est ce que je fais ce matin.
Pendant 5 heures ?
Exactement. De 8h15 à 13h. Les choses sont bien faites ici. Déjà, nous avons des tioulim. Des tioulim, ce sont des sorties, des week-ends, pour parcourir en fait tout Israël. Nous avons été dormir dans le sud avec les Bédouins. Nous avons été dans le Golan, dans le nord. Nous avons été à Jérusalem. Donc voilà, nous avons cette découverte d'Israël. C'est génial.
Vous rencontrez les Arabes israéliens dans le cadre de ce programme ?
Non. Les seuls Arabes israéliens que nous rencontrons, donc à part dans la rue, c'est dans le supermarché qui est juste en face. Toutes les caissières et caissiers sont des Arabes israéliens.
Et il est envisagé que vous rencontriez des Palestiniens ?
Non. 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 Et c'est un non catégorique. Pourquoi prendre un risque ? Nous sommes dans un pays en guerre, où il y a encore 2 semaines, un Palestinien rentrait dans un bus pour planter 10 personnes.
À Tel Aviv ?
À Tel Aviv. Au couteau. J'ai 26 ans, je ne suis pas obligée de faire l'armée. Pour les femmes, donc l'âge maximum est de 20 ans. Mais pour remplir mes devoirs de citoyenne israélienne, je veux m'inscrire en tant que volontaire à l'armée et je veux faire l'armée pendant 1 an, 2 ans.
Pourquoi c'est si important pour vous de faire ça ?
Je ne peux pas me sentir israélienne à 100% si je ne remplis pas mes devoirs de citoyenne israélienne. C'est très important pour moi de donner une part de moi pour ce pays qui m'accueille, qui m'aide, parce que grâce à l'Alia, nous recevons de l'argent pendant 6 mois.
C'est combien ?
Pas facile. Nous recevons l'équivalent de 600 euros par mois pendant 6 mois. Alors je travaille à côté évidemment pour avoir un peu plus d'argent et mettre de côté, mais beaucoup de personnes ne travaillent pas et s'en sortent très bien.
Dans votre cours d'hébreu, vous apprenez quoi en ce moment ?
Nous apprenons le futur. Voilà. Nous avons fini avec le passé, nous apprenons le futur.
L'enthousiasme de Sarah Tmim, tous les jeunes arrivants ne le partagent pas forcément. Anna Bitbol, par exemple, a 26 ans. Elle aussi vient de la région parisienne. Elle est installée en Israël depuis août dernier. Mais son alia ressemble plutôt à une longue suite de déconvenues. Nous la rencontrons chez elle, dans un ancien entrepôt de Tel Aviv.
J'ai 26 ans, je viens de Paris. J'ai fait mon alia le 3 juillet 2014. Et donc voilà, ça fait bientôt 9 mois que je suis ici.
Ah non, en arrivant dans cet appartement, la première chose que j'ai vue, c'est que vous étiez branché sur la télé française.
Ouais. C'est vrai qu'au début, je m'étais dit, j'étais un peu contre tout ça. Je suis arrivée à plein de bonne volonté. Je me suis dit, je vais regarder la télé israélienne. Enfin, je vais vraiment me mettre dans le truc. Et en fait, c'est vrai que ça manque quand on est ici. Et quand j'allume la télé française, ça me fait du bien. Quand on, voilà, quand on fait la lien, on est plein de bonne volonté. On se dit que ça va aller, que c'est le rêve de notre vie et tout ça. Et en fait, c'est pas non plus un rêve, quoi. Il y a une réalité, en fait, qu'on mesure pas avant d'arriver en Israël, quoi.
Qu'est-ce qui a été compliqué pour vous, en l'occurrence ?
Bon, bah déjà, toutes les galères qu'on a, quoi. Quand on arrive ici, trouver un appart. Moi, je suis arrivée seule, donc... Je suis arrivée dans un climat de guerre aussi, donc c'était pas hyper facile non plus.
Et vous êtes arrivée pendant la guerre de Gaza, c'est ça ?
Ouais, je suis arrivée le 3 juillet, je crois que ça a commencé quoi, le 8 ? Voilà. Je me retrouve dans le bus toute seule, à devoir sortir du bus, à courir, je me mets à pleurer. Enfin, j'avais ma vie, c'était un film quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici ? Dans quel pays je suis ? Vraiment, genre, je me dis, mais qu'est-ce que je suis venue foutre ici, franchement ? En fait, je pense que le plus dur à intégrer en venant ici, c'est cette mentalité qu'ils ont, ce rapport à la guerre qu'on n'a pas du tout en France. Et je pense que c'est vraiment le plus dur à intégrer en Israël. Parce que moi, je me vois pas, même dans 10 ans, si un jour j'ai des enfants, je me vois pas accepter ça de la même manière qu'ils ont l'accepté. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis pas capable. J'en suis incapable. J'ai beau vouloir être israélienne, franchement... On arrive en se disant, ouais, on va parler hébreu, on va rencontrer des Israéliens, on va ceci, on va cela. Et puis, au bout du compte, on se dit, mais c'est des. Enfin. C'est peine perdue, quoi. Non, je suis française, quoi. Et pour trouver un appart, ça a été galère, quoi. Les prix, c'est exorbitant.
C'est-à-dire ?
Quand on a un salaire moyen, on peut pas vivre à Tel Aviv, c'est impossible, à part de. Ou sinon, vivre en coloc. Ou... Alors, moi, j'ai de la chance que mes parents m'aident. Mais sans ça, je sais pas comment j'aurais fait. Non, je fais des photos de tous les papiers qu'on m'a fait signer pour les envoyer à des Israéliens pour qu'ils me traduisent, tout. C'était une galère. Et puis tout le monde est là. En fait, le problème, c'est que quand t'es français, t'as l'impression que tout le monde veut t'entuber. Donc tu sais pas, t'as peur, tu te dis, attends, mais peut-être qu'il est en train de m'arnaquer, peut-être que... Et puis en plus, voilà, j'ai les propriétaires, j'avais affaire à des mecs de 50, 60 ans, un peu orientaux, machin, qui parlent fort et tout. Moi, je suis là, je suis une petite française, j'arrive... Mais qu'est-ce qu'il m'agresse, le mec, alors que personne ne m'agresse, tu vois, mais c'est juste...
Un fossé culturel, quoi.
Ouais, complètement. En fait, il y avait un moment, les premiers mois, tous les jours, je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, toutes ces galères, l'électricité qui marche pas, je m'embrouille avec le mec qui fait les travaux en face, tous les jours, un truc qui va pas, et je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Bon, ben là, l'électricité marche pas dans ma salle de bain, ça fait 5 mois, c'est tombé, ça me dérange plus, quoi. Je m'en fous, quoi.
Vous vivez à l'israélienne.
Voilà, c'est ça. Et je pense que ça va aller, quoi. Tout le monde me dit que la première année, elle est difficile, mais après, qu'après, ça passe. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait leur aléa et qui sont rentrés en France parce qu'ils, à cause de ça. Hein.
Ah ouais, vous en connaissez?
Ouais, j'en avais rencontré avant de partir, et ouais, ils sont restés 1 an, 2 ans, après ils rentrent, quoi.
Des jeunes, comme vous?
Ouais.
Et qu'est-ce qui a fait qu'ils sont rentrés?
L'argent, déjà, je pense.
Difficulté à gagner sa vie?
Ouais, difficulté, non, et puis voilà, en France, on gagne mieux sa vie qu'ici. C'est ça qu'il faut aussi comprendre en Israël, c'est que c'est pas, on n'est pas comme en France, quoi. Il faut bosser. Les gens, ils bossent comme des malades ici. Moi, je me lève à 7h du matin tous les jours, c'est un truc que j'avais jamais fait en France, quoi. Les gens, ils rentrent à 21h du travail, c'est normal. C'est un peu la vie dure, en fait. Je suis dans une période de transition, donc un changement, c'est souvent pour quelque chose de meilleur. Donc évidemment que j'en suis contente, mais c'est compliqué. C'est difficile à intégrer, ça s'appelle l'intégration. Donc ouais, ça prend du temps.
Ça s'appelle l'absorption même.
L'absorption, exactement. Et ça prend du temps de...
D'être absorbé?
D'être absorbé, ouais, complètement. Je pense que ça prend des années même. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החום איזה חום אולי נזו שואלת גם התרסו הממש קרוב לדרך השלום. Pour essayer de comprendre la particularité de cette alia, de cette montée vers Israël des Juifs de France, nous allons nous rendre maintenant à l'Agence juive à Jérusalem. Depuis 1929, l'Agence juive sert à encourager, à faciliter l'émigration juive vers Israël. Et finalement, cette émigration française ne serait pas si différente des autres. C'est Yigal Palmor qui le dit, c'est le porte-parole de l'Agence juive.
Il y a eu plus de 7200 Français, juifs, qui se sont installés en Israël. L'année précédente, nous avions eu 3300 immigrants depuis la France. Et donc, le saut qualitatif, exponentiel, était un peu surprenant. Alors, la prévision pour l'année 2015 est de 10 000. Ceci dit, c'était les chiffres qui ont été annoncés avant les attentats de Paris. Et il se pourrait parfaitement que les attentats contribuent à gonfler un peu plus les rangs de l'immigration. Il pourrait l'amener, ma foi, jusqu'à 15 000. Mais nous déconseillons vivement à ceux qui examinent, qui contemplent la possibilité de s'expatrier ou d'immigrer, de le faire sous la pression de la panique ou la peur. Si la peur est d'un mauvais conseil, la panique, eh bien, c'est bien pire. Une fois qu'on a bien réfléchi, qu'on a fait sa décision, eh bien à ce moment-là, très bien, on fait le pas. L'agence juive est là pour aider à l'intégration de ceux qui ont choisi de venir. Il fut un temps où un immigrant arrivé en Israël était entièrement encadré par le gouvernement. Le gouvernement ou les autorités lui disaient « Voilà, vous allez habiter telle ville ou tel coin, vous vous installez là-bas ». On vous donne un certain emploi, vous ne pouvez pas choisir ce que vous allez faire de toute façon, donc vous allez faire ceci ou cela, vous allez faire de l'agriculture, vous allez faire autre chose dans une petite ville un peu au nord ou dans le sud du pays, et c'est comme ça que vous répondrez mieux aux besoins du pays tels que le gouvernement les a déterminés. Bien, ces temps-là sont révolus. Ils sont révolus. Les immigrants arrivent et... Ils sont dans un pays libre. Ils sont libres de le choix. Ils s'installent où ils veulent, où ils peuvent, n'est-ce pas? Personne ne prétend leur dire, voilà, vous allez exercer tel métier, vous allez habiter telle ville, ou vous allez prendre votre temps pour les études, certaines carrières ou pas. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Alors je crois qu'il y a toujours cette attente de la part d'un certain nombre d'immigrés d'être pris en charge par le gouvernement, par les autorités, par les structures étatiques, un peu plus que ce que nous faisons actuellement. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a certaines inquiétudes. L'immigrant ne peut pas transposer sa position en France telle qu'elle est en Israël. L'immigration constitue toujours un certain sacrifice, surtout pour la première génération des immigrés, quel que soit le pays de destination. L'immigrant doit toujours laisser derrière lui une part de lui-même et puis quelque chose de sa vie antérieure. C'est parfois un peu un retour à la case départ et il faut prendre en compte cette situation.
On a l'impression, malgré tout, avec cette communauté française, qu'il y a une forme de ghettoisation, d'entre-soi, de vraies difficultés à s'intégrer dans le pays.
Oui, alors l'entre-soi, c'est bien le propre de toute vague d'immigration. Les Russes, les Roumains, les Marocains, les Tunisiens, à chaque fois qu'il y a eu une vague d'immigration, il y a eu cette tendance des nouveaux venus de la première génération de se retrouver entre eux. Donc il n'y a rien d'étonnant que les Français qui arrivent aujourd'hui par quantité assez conséquente se retrouvent entre eux, créent leurs propres associations, leurs propres journaux, leurs propres pâtisseries, épiceries. C'est tout à fait normal et c'est bien dans la tradition de toutes les vagues migratoires qui les ont précédées. Et donc c'est à l'intégration de la deuxième génération que nous verrons si les Français se sont bien intégrés en Israël ou pas. Je parie que le succès sera au rendez-vous.
Qu'est-ce qu'on peut dire des échecs possibles de cette immigration française ? On parle beaucoup de la Yerida, de ces gens qui redescendent, qui ont échoué dans leur alia. On ne les voit pas, j'allais dire, et c'est comme une sorte de phénomène caché ou qu'on voudrait nous cacher. Qu'est-ce que vous savez-vous de tout ça ?
Alors d'abord, ce phénomène existe, c'est un phénomène connu. Ça a toujours été le cas dans toutes les vagues migratoires. Il y a environ 15 à 20% des immigrants, en fonction du pays et de l'époque, qui décident de rentrer chez eux ou d'aller ailleurs. Par exemple, dans les années 80-90, il y a eu une vague migratoire depuis l'Argentine vers Israël. Certains ne se sont pas intégrés. Ils ne sont pas pour autant rentrés en Argentine. Ils ont immigré vers l'Espagne. Ils ont constitué une petite communauté juive argentine à Madrid et à Barcelone. Ça arrive. Il n'y a pas de mal.
La mer Méditerranée n'est qu'à quelques dizaines de mètres de là où on se trouve. On est à Netanya. C'est une ville balnéaire israélienne de 180 000 habitants. Et cette ville, eh bien, c'est un petit bout de France en Israël. Beaucoup de Français font leur alia ici parce que c'est plus facile. Tout le monde ou presque parle français. Les annonces immobilières sont en français, les médecins parlent français, les libraires parlent français et bien sûr, les barman.
Bonjour. Français.
Eh ben, ils sont pas trompés. Je vous en prie.
Mais non, on parle pas.
Mais c'est le meilleur.
Les Français parlent français. Voilà les Français. Lui, il a fait un coq-chambin.
Ah ouais, c'est le bar à la française un peu ici.
Ouais, bah ouais. Et toi, t'es pas française ? C'est une Russe qui parle français.
Vous êtes au pastis ou quoi là ?
Ah, au Phoenix.
Ah, pareil, Phoenix.
Moi, c'est du Ricard.
Toi, c'est du Ricard.
Ah, Ricard, qui n'en rien, patron. Ah. Je vais aller chez le dentiste.
Le 51, le 51.
Ah là, c'est la vraie France, là.
Ben ouais, ouais. Ici, c'est connu, le bar français.
Chez Max.
La Kémia. Oui,
la Kémia.
La Kémia, ou le Maza, comme on appelle ici. Mais ouais. C'est la Kémia, non ?
Je sais pas, moi. Oui, la Kémia.
Mais toi, tu vois pas.
C'est quoi, la Kémia ?
Ah non ?
La Kémia, c'est ça. C'est les amuse-gueules, quoi, pour boire une
coupe. Amuse-gueule. Voilà. En France, on appelle ça amuse-gueule.
Amuse-gueule.
Hier, il y avait le football,
PSG, Paris Saint-Germain. PSG qui jouait contre Chelsea. Ouais.
Et alors ?
Vous voyez ?
C'était rempli, là ?
Hein ?
Les supporters.
Un match nul, hein, partout. Ouais. Dommage, on aurait pu emporter un. Et tous les jeunes qui hurlaient, tout, on dirait qu'on se croyait à Paris.
Hein. Il y a beaucoup de Français, là, il n'y a que ça.
Et vous avez vraiment une clientèle
exclusivement française, pratiquement.
Non.
C'est français, que français. Un peu.
Voilà, ouais.
J'ai l'histoire des Israéliens qui sortent, mais sinon, c'est que les Français. Et la journée aussi, les couples français qui viennent, ils mangent.
Et le menu, il est en français, il est écrit en français.
En français, carrément français.
Il n'est même pas écrit en hébreu, d'ailleurs.
Non, hébreu, français, mais...
Surtout français.
Pour traduire, surtout ouais, français.
Ouais, j'ai vu en ouverture la poulet aux olives,
voilà,
c'est ça aujourd'hui, ouais.
Voilà.
Ouais. Sandrine, racontez-nous le menu. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, alors? Qu'est-ce qu'on peut manger ici de très français?
De très français, alors d'accord. Nous avons la grillade à la française, notamment l'entrecôte, le rossini, les côtelettes d'agneau.
Hapchim Blackyarden.
Ça veut dire ça?
Non, je cherche que... Il lui est bon.
Yash? Yash,
l'entrecôte dehors. Bonjour, messieurs, dames.
Bonjour.
On vous dérange en plein repas?
Oui.
On essaie la l'entrecôte de l'Italia.
Qu'est-ce que vous avez commandé là, à manger?
Une entrecôte et une salade de poulet.
Il y a un petit bout de Paris ici, un petit bout de France ici?
Toujours.
Ouais.
C'est vrai que nous sommes une très grande communauté. On se retrouve ici très souvent et c'est vrai qu'on... Chez William, oui, c'est vrai. Ouais.
Parce que c'est le meilleur resto français, entre guillemets, de Netanya.
Disons que c'est typique français, oui, c'est vrai. C'est typiquement français, avec la petite couleur israélienne, le sourire, l'accueil. Donc c'est très, très bien.
La chaleur.
La chaleur, comme toujours.
Ouais. Merci, messieurs, dames. Bon appétit.
Je vous en prie, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Plane ici une odeur de baguette et de croissant chaud que vous ne sentez sans doute pas à la radio. On est ici dans le laboratoire de Ness. Ness, c'est une boulangerie-pâtisserie française qui a ouvert il y a 7 ans maintenant sur Jérusalem. Aujourd'hui, tout le monde s'arrête pour acheter les gâteaux, les macarons, les tartes de cette boulangerie. Et c'est Nathalie Benaïm, notamment, qui est derrière cette success story de l'Alia française.
Les Israéliens sont de plus en plus demandeurs. Ils commencent à apprécier le goût français et par les médias et par la télé. Donc oui, ça commence à bien prendre.
Et là, concrètement, vous faites quoi? Du croissant, de la baguette, du macaron,
des gâteaux,
flans.
Les rochers, les suchards, on fait les macarons, on fait tous les gâteaux. Individuels, les gros, les
éclairs au chocolat.
Ouais, les éclairs, les tartes, on fait des entremets et tout ce qui est la viennoiserie aussi. La viennoiserie est complètement à la brioche, les croissants, le pain suisse, tous les goûts de la France, toutes les odeurs, tout ce qu'on a, on rêve de retrouver quand on arrive ici.
Combien vous employez de personnes aujourd'hui à peu près?
Je pense qu'on va employer 25 personnes.
25 personnes?
Ouais, je pense.
Donc vous faites à peu près combien de chiffre d'affaires?
Je pense dans les 150 000, voire plus.
Chez quel, par mois?
Ouais, 150 et 200 000, je pense, avec le traiteur, quelque
c'est-à-dire
chose
30 000
comme ça.
Euros.
Ouais, à peu près, ouais.
Qu'est-ce que vous diriez à des gens, justement, qui ont envie de venir, qui hésitent?
Il ne faut pas trop réfléchir. Quand on réfléchit trop, on ne vient pas. Nous, au départ, ça fait 10 ans qu'on réfléchissait à l'Alia, mais qu'on ne le faisait pas. Et on l'a fait sur un coup de tête. En 3 mois, c'était fait. J'avais venu d'accoucher, 3 mois après, on est arrivé avec le bébé 3 mois. Donc, pourquoi? Parce que si on met sur un papier les bons côtés et les mauvais côtés, et je pense qu'il y a plus de mauvais côtés en Israël, au départ. Après, ça se renverse. Au départ, on a toute notre famille en France. Moi, j'ai pas du tout de famille en Israël, du tout. Donc, ni de mon mari non plus. Donc, toute la famille en France, c'est déjà un gros morceau. Ensuite, on avait un commerce, on a la langue, une vie qui tourne. Tout recommencer ailleurs, c'est dur. Donc, il ne faut pas réfléchir.
Ouais, vous dites complètement l'inverse de ce que disent d'ailleurs les associations, c'est-à-dire qu'il faut préparer longtemps, réfléchir, mûrir sa décision. Vous dites aussi un coup de tête.
Moi, c'est un coup de tête. J'aurais réfléchi, je ne serais pas venue. Maintenant, grâce à Dieu, ça a marché pour nous. Mais bon, faut dire aussi qu'on avait un commerce en France, qu'on a laissé en location dans un premier temps, qui nous a aidé. On n'est pas, on peut pas dire, je peux pas dire aux gens qui sont en France qu'ils n'ont zéro franc devant eux, venez. Et ça va aller. Non, il faut quand même prévoir pour un an au moins de ne pas travailler. Parce que s'il n'y a pas la langue, il faut faire un ulpan. Il faut trouver du travail. Donc, il faut quand même un minimum pour arriver.
On a beaucoup parlé jusqu'ici des difficultés, des problèmes, des complexités de l'Alia, surtout dans les premières années. Des émigrés finissent même par repartir en France, par redescendre, comme on dit, entre 15 et 20%, ce sont les chiffres. Mais globalement, passé ces premières années, l'intégration finit par se faire. Exemple de cette intégration dans la société israélienne, Joseph, 58 ans. Il était psychiatre dans les hôpitaux en France et après 5 ans d'Alia, il est devenu psychiatre dans l'armée israélienne.
Alors je suis Joseph, je suis médecin psychiatre, 58 ans. Voilà, je suis marié, 3 enfants. J'ai fait mon Alia donc il y a 4 ans et demi. Ce qui veut dire donc que j'ai travaillé l'essentiel de mon activité en France, à Paris, en province, dans la Nièvre, et puis ensuite sur Paris et maintenant sur Jérusalem. Ce qui m'a poussé à faire le choix de l'Alia, ce que je peux dire, bon, c'est pas une idée nouvelle, hein. Je veux dire que ça commence dans l'adolescence, le militantisme dans les mouvements sionistes. Une volonté de faire son Alia vers l'âge de 18 ans, dans les mouvements de jeunesse. À ce moment-là, on ne passe pas de l'autre côté. Donc ça a été avant tout une expérience politique, hein, un choix idéologique, si on peut dire. Ensuite, on se marie, les études, les enfants, on va dire que on s'endort dans la vie. Et un réveil brutal, je veux dire, je pense que vraiment le réveil brutal, c'est en 2000.
Avec ?
Avec l'intifada, avec les événements qui se sont passés en France, je ne sais pas si vous en rappelez, le moment où on brûlait des synagogues à Paris, où on agressait des juifs avec des kippas, et un sentiment, en fait, d'avoir été lâché par la société française. C'est un peu le sentiment que j'ai eu à ce moment-là. À partir de ce moment-là, il y a eu un sentiment de d'être un peu lâché, et ressorti, l'envie de faire son Alia. Et donc, progressivement, on a fait un basculement ici. Je travaillais 15 jours, je faisais des remplacements en clinique, en France, oui, en France, à Paris, dans la région parisienne, et je revenais par la suite ici, et j'avais ici des cours d'hébreu dans des ulpanes ou en privé. Je l'ai fait pendant un an et demi, avant d'avoir un poste effectif de psychiatre ici, pour travailler pour l'armée, là.
Voilà. Et vous teniez absolument à pouvoir travailler, j'allais dire, au cœur, au sein de la société israélienne, plutôt que de garder un pied en France, plutôt que de travailler au milieu des Français ou...
C'est le sens de l'Alia, en fait. Hein. Le sens de l'Alia, c'est une sorte de retour. Hein. On n'est pas à côté, on veut être à l'intérieur du peuple. Hein. Donc revenir à l'intérieur du peuple.
Alors racontez-moi comment vous êtes à l'intérieur du peuple israélien aujourd'hui.
Ben, je parle hébreu. Je suis qu'avec des Israéliens, voilà. Je partage le quotidien et c'est aussi une cohérence de vie. On peut pas penser toute sa vie que, en fait, la destinée du peuple juif, c'est ici, c'est de construire ici et puis d'y être en dehors.
Qu'est-ce que vous aimez chez les Israéliens? Quelle est votre part aujourd'hui d'Israélien en vous?
Non, c'est de faire partie de l'expérience, c'est de faire partie de l'histoire du peuple, voilà. C'est la partie de l'histoire de partager avec eux leurs difficultés, leurs souffrances, leurs angoisses et leurs joies aussi. Voilà, on vit au rythme du judaïsme. Bon, moi, je suis pas pratiquant. Hein. Le judaïsme plutôt, on va définir plutôt laïque, mais j'aime bien vivre aussi à ce rythme-là. Bon, toutes les fêtes, quand vous vivez dans les fêtes ici, sous code, vous avez des cabanes sur tous les restaurants. Il y a une animation particulière. On vit au rythme du judaïsme.
J'allais dire pour nous montrer que. Vous êtes devenu un vrai Israélien. Vous avez aussi désormais votre abri pour vous protéger éventuellement pendant une situation de guerre, c'est ça?
C'est ça. C'est l'appartement qui est conçu. Dans tous les appartements modernes maintenant, ils font ce qu'on appelle des mamads. C'est un abri contre les missiles. Voilà, en cas d'alerte, on doit fermer la fenêtre de l'autre côté et s'enfermer dans la porte avec la porte blindée.
On rentre dans l'abri pour voir à quoi ça ressemble. Lourde porte en métal.
On a surtout, l'essentiel, c'est la fenêtre extérieure. Voilà. Il faut, en cas d'alerte, fermer le volet en fer qui protège. C'est très lourd. Hein, alors, voilà. Le volet est fermé. On ferme la porte blindée ici. Et on se branche sur la radio pour écouter la fin de l'alerte. On vit comme les Israéliens, on vit avec la même tension, avec les mêmes problèmes.
Vous vous sentez 50% français, 50% israélien ?
Alors je me sens 100% français, 100% israélien. Voilà, c'est les deux. C'est pas moitié-moitié. J'ai rien perdu d'être français, j'ai rien, absolument rien perdu. Et j'espère gagner le plus possible d'être israélien. C'est quelque chose qui est en plus. C'est pas quelque chose qu'on perd. Quelque chose qui se rajoute. On a une identité très forte, une identité française, ancienne, etc. Elle n'est pas perdue, elle est là, elle sera là, elle sera là en permanence. On rajoute quelque chose. On a un cœur assez grand pour pouvoir magasiner beaucoup plus, beaucoup plus. Comme je dis toujours, l'amour, ça multiplie plutôt que ça se divise, ça se partage pas, ça se multiplie, en fait.
Elohei Israel, mimini Michael, mismoli Gabriel, milefanai Uriel, meachorai Rafael, umeal Roshi, umeal Roshi, umeal Roshi.
Aliyah, ces Français qui choisissent Israël. C'était un reportage de Sébastien Legeny, prise de son Nicolas Mathias. Interception est une émission réalisée par Anne Lureau avec l'aide de Juliette Acus, Christine Kern et Stéphane Combe. Mixage, Claire Levasseur, je vous souhaite une très bonne journée.
משנה כל עוד עצמנו